Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Les informations, Babel Pongo Massimango.
La découverte par l'armée d'une nouvelle cache d'armes et de munitions dimanche à Djingo, territoire de Djougou en Ituri. Le porte-parole des FARDC dans cette province parle de plus de 200 armes appartenant à la milice CRP de Thomas Lubanga. C'est la deuxième découverte en un mois. La 13e conférence des gouverneurs de province. Le lancement, c'est tout à l'heure à Bandundouville, dans le Kwilu. Ce sera sous la direction du chef de l'État. Le thème de cette année met un accent particulier sur le développement du secteur agricole et de voies d'évacuation des produits. La ville est déjà en effervescence. Dans ce journal, la bourgmestre de Bassoko, commune qui accueille l'événement. Les participants au dialogue entre Congolais ont débattu hier de deux initiatives récentes de lutte contre la corruption qui gangrène le pays, la création du tribunal pénal économique et financier par le chef de l'État et aussi l'application Tofungola Miso. Vous suivez leur réaction dans cette édition. Madame, Monsieur, bonjour. Découverte d'une nouvelle cache d'armes et munitions en Ituri par les forces armées de la République démocratique du Congo. C'était dimanche au village Djingo, en territoire de Djougou. Dans une communication à la presse hier lundi à Bounia, l'armée indique que ce sont près de 200 armes de différents calibres qui étaient cachées dans cette localité par la Convention pour la Révolution Populaire, CRP, milice dont le chef est Thomas Lubanga. Leur objectif, selon toujours les FARDC, déstabiliser la population. Le porte-parole de l'armée en Ituri ajoute que cette découverte est le fruit de la collaboration entre les jeunes de la communauté EMA avec l'armée. Un extrait de la déclaration de lieutenant Jules Ngongo, choisi par Marcel Kizabiamungo.
Nous venons de récupérer les armes de type AK-47, du arme PKM, les armes collectives, les armes d'appui et 4 RPJ-7 dans une cache d'art. Au regard de cette découverte, l'air a sonné pour ces miliciens de comprendre une fois pour toutes qu'ils déposent les armes et qu'ils se rendent aux forces armées. Le contraire, nous allons continuer pas à pas, périmètre par périmètre, à neutraliser la CRP et tous ses alliés. Nous félicitons le jeune EMA qui continue à dénoncer l'air bourreau qui est Thomas Lubanga et ses alliés. Parce que toutes ces armes que nous venons de récupérer, c'est la communauté qui a dénoncé et qui nous a indiqué les lieux où se cachent ces armes.
Il y a un mois, une autre cache d'armes et munitions de cette même milice avait été découverte dans la région minière de Dala, toujours dans les territoires de Djougou. Une hausse de prix des produits manufacturés est observée depuis quelques jours au marché de Goma. Une des conséquences de la guerre qui secoue actuellement les pays du Moyen-Orient explique les commerçants de cette ville du Nord Kivu. Ils affirment que ces pays touchés par la guerre sont les principaux producteurs de plusieurs produits manufacturés importés à Goma. Explication avec Bernardine Diambou.
Nous sommes au centre commercial de Birere. C'est lundi, pas d'engouement des acheteurs observés dans différents magasins et boutiques. Certains détaillants que nous avons contactés affirment que depuis deux semaines, il y a rareté de plusieurs produits manufacturés, ce qui provoque une flambée des prix. À titre d'exemple, un bidon de 20 litres d'huile végétale qui se vendait il y a deux semaines à 28$ se vend aujourd'hui à $40 américains. La farine de froment, dont un sac s'achetait à $17, revient actuellement à $20, pour ne citer que ces quelques exemples. Une situation que l'on explique par la rareté de certains produits manufacturés. C'est ce qui explique cette femme qui a requis l'anonymat.
Il y a une hausse des prix à cause des pays producteurs. Plusieurs produits comme la farine des froments proviennent des pays actuellement en guerre. À cause de la suspension des bateaux, les prix de tous les produits sont revus à la hausse. Un bidon d'huile qui se vendait à $28 revient aujourd'hui à $40 voire $45. Beaucoup d'autres articles sont devenus rares et les prix ont galopé. Maintenant, il y a rareté de l'huile végétale, de la farine des froments, de la mayonnaise, des sardines et des tomates concentrées.
Cette situation perturbe les paniers de la ménagère à Goma, ville dont la population est meurtrie par la crise économique qui perdure depuis le début de la guerre au Nord Kivu. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Journée particulière hier lundi à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, avec la paralysie totale des activités socio-économiques. À l'origine, une manifestation spontanée des motards descendus massivement dans les rues pour exprimer leur indignation après l'assassinat d'un des leurs vendredi dernier. Les services de l'ordre ont encadré les manifestants afin d'éviter tout dérapage. Marc Maroufimbo.
des klaxons qui retentissent, des phares allumés en plein jour et des rameaux attachés à des motos. C'est dans cette atmosphère de colère et de deuil que des milliers de motards ont envahi les principales artères de Beni ce lundi matin. Objectif, exprimer leur ras-le-bol face aux assassinats ciblant les membres de leur corporation, dont la quasi-totalité de la ville, boutiques, magasins et maisons de commerce sont restés fermés. À Matongé, les quartiers commerciaux, seules quelques boutiques ont timidement ouvert, craignant des possibles représailles ou débordements liés à la mobilisation des motards. Dans les quartiers périphériques, notamment dans la partie ouest de la ville, où leur collègue a été tué, des barricades ont été érigées, bloquant totalement la circulation pour tous les véhicules à moteur. Seuls les piétons pouvaient s'effrayer un passage à travers des grosses pierres et troncs d'arbres. En début d'après-midi, alors que le motard se préparait à accompagner le corps de leur collègue à sa dernière demeure, un calme progressif est revenu dans plusieurs quartiers de Beni. Les activités socio-économiques ont repris timidement, signe d'un apaisement fragile. Pour rappel, vendredi dernier, un motard a été abattu par des hommes armés non identifiés dans les quartiers Ngongolio. La police affirme avoir ouvert une enquête afin d'identifier les auteurs de cet assassinat. Beni, Marc Maroufimbo, Radio Okapi.
Les regards de plusieurs Congolais sont tournés ce mardi 24 mars vers le Bandundu. Cette ville organise dans quelques heures en effet la 13e conférence des gouverneurs, avec en perspective l'arrivée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi sur place. Plusieurs chefs d'exécutifs provinciaux ainsi que des membres du gouvernement y séjournent déjà. Entre rotations aériennes intensifiées, hôtels bondés et dispositifs sécuritaires renforcés, la ville se transforme pour cet événement d'envergure nationale. Au cœur de l'organisation, la commune de Bassoko, sa bourgmestre se dit honoré d'accueillir pour la première fois ces assises, qu'elle considère aussi comme une opportunité de valoriser le potentiel agricole et l'image de Bandundu. On écoute la bourgmestre de Bassoko, Kasilda Kibongo, au micro de Jean-Claude Tangamou de la radio communautaire Bandundu Développement.
Nous nous sentons plus qu'honorés pour la venue de cette 13e session de conférence dans notre ville de Bandundu. Particulièrement, toutes les assises vont se dérouler dans la commune dont nous sommes bourgmestres. Tout se déroule bien, nous avons accueilli presque tous les hôtes, ils sont installés et nous osons croire que c'est une opportunité majeure pour notre ville d'organiser pour la première fois cette session de conférence et ça va nous faire bénéficier d'abord des contacts et aussi les autres vont découvrir la ville de Bandundu qui est généralement une ville paisible sur un plateau entouré d'eau très riche et qui a le pouvoir agricole à 70% et les thèmes coïncident bien pour que nous puissions profiter de tous les inputs de cette conférence, que ça serve au développement agricole de notre province. Que tous nos invités se sentent à l'aise, nous sommes en République démocratique du Congo, ils sont aussi chez eux, accueillis, salués, donner de l'eau, donner de la place, pourquoi pas, à tous ceux qui sont venus.
La bourgmestre de la commune de Bassoko à Bandunduville. Les langues que nous parlons peuvent-elles nous aider à mieux vivre ensemble? C'est la question au cœur d'une conférence organisée hier lundi à l'université de Goma. En marge de la journée internationale de la francophonie, l'événement a mis à l'honneur le tout nouveau dictionnaire Kinyanga français du docteur Joseph Mushunganya Sambokere. Une occasion pour les différents intervenants de rappeler que protéger nos langues locales, c'est avant tout protéger l'âme de nos communautés. Dédité avec Rosalie Zaradi.
Sauver nos langues locales, c'est une affaire d'État, mais aussi des familles. Pour les experts réunis ce lundi à l'université de Goma, les autorités et les chefs de communauté ont un rôle crucial à jouer pour éviter que nos langues locales ne tombent dans l'oubli. Car sans langue, une communauté disparaît. Un constat partagé par Paul Kassai, défenseur des langues locales au Nord Kivu. Il rappelle que la protection de ces patrimoines commence dans nos conversations de tous les jours en famille.
Au niveau des familles, ça donne l'impression que les parents veulent à tout prix que leurs enfants parlent français et parlent anglais, en ignorant que l'UNESCO nous demande que nous enseignions à nos enfants les langues maternelles. C'est un peu difficile pour le moment parce que j'ai été à une réunion des parents dans une école primaire il n'y a pas longtemps. Quand j'ai posé la question de savoir si on ne peut pas tolérer que les élèves parlent swahili à l'école, tous les parents m'ont hué. J'ai même été frustré, je n'ai pas pu continuer ma préoccupation.
Cette préoccupation étouffée était de parler aux parents de leur rôle dans la promotion des langues locales. Pour les experts réunis à Goma, il est urgent de promouvoir nos dialectes ici et ailleurs pour bâtir une région plus unie. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Comment accéder à des soins médicaux de qualité en Afrique sans devoir se rendre en Europe ou en Asie? C'est l'objectif poursuivi par la délégation des médecins de l'hôpital universitaire Aga Khan de Nairobi, actuellement en mission en RDC. Lors d'une conférence de presse tenue hier à Kinshasa, ces experts de la santé ont indiqué disposer d'un département dédié à la prise en charge des patients internationaux, notamment en matière de transport et de qualité de soins. Ils ont également exprimé leur volonté d'établir un partenariat avec le gouvernement congolais. Docteur Manel Hadji Imanson, médecin spécialiste à l'hôpital universitaire Aga Khan de Nairobi, s'exprime à ce sujet au micro de Blaise Shindani Kambala.
On est ici principalement pour créer un partenariat, pour sensibiliser les gens qu'il y a vraiment un centre de renommée, un centre d'excellence pour pouvoir offrir le traitement disponible aux patients en Afrique sans vraiment avoir besoin de voyager outre-mer pour avoir accès aux traitements innovateurs. Alors, les conditions, on a un département qui prend en charge les patients internationaux. Donc, il faut juste accéder à notre département qui s'appelle Patients Referrals. Ça, c'est le département qui prend en charge les patients internationaux. Il faut juste avoir un rapport médical. Ce qu'il y a d'essentiel en termes d'investigation qui ont déjà été faites, il y aura un médecin derrière qui va revoir le dossier médical. Pourquoi pas une consultation Zoom pour bien préparer le transfert du patient d'un pays à un autre et aussi pour maximiser le temps passé à Nairobi. Ça veut dire qu'ils vont passer le minimum de temps à faire toutes les investigations, le traitement en un temps record. Alors on a toutes les spécialités disponibles. Moi je suis spécialisée en oncologie, donc en cancérologie. On a aussi des soins très avancés en cardiologie, en chirurgie laparoscopique, en gynéco, en soins intensifs.
Les maladies métaboliques, notamment le diabète, l'hypertension, certains cancers au centre d'une conférence tenue le week-end par le secrétariat général à la recherche de l'université de Kindu. But de ces échanges animés par un professionnel paramédical, sensibiliser les utilisateurs d'appareils et outils numériques à un usage responsable afin de prévenir certaines maladies métaboliques. Pour vous aider à mieux décrypter ces notions, suivez ces précisions de Florence Kisalunga.
Les maladies métaboliques résultent d'un dysfonctionnement des cellules. Elles regroupent notamment les diabètes, l'hypertension, certains cancers et divers troubles hormonaux. Plusieurs participants ont partagé leurs impressions à l'image de Yale Shindano Rito.
Le port de serviettes hygiéniques, on utilisait n'importe lequel. Vraiment, ça m'a étonné. C'est vraiment très dangereux.
De son côté, Loco Nyota Florence reconnaît qu'elle doit revoir ses habitudes alimentaires.
Souvent, je prends beaucoup de sucre, de lait, du chocolat. Mais d'après ce qu'on nous a dit, je dois me discipliner à ma manière de manger.
Même réaction du docteur Tchosolodi, pédiatre depuis plus de 30 ans, qui promet de relayer ses conseils à ses patients.
En tout cas, il y a un plus. Il nous a parlé de choses très très intéressantes. Désormais, je ne mettrai plus mon téléphone dans la poche. Dans mon bureau de consultation, j'aurai toujours à parler aussi à mes patients.
Les conférenciers Dieudonné Malobo a conclut en insistant sur la responsabilité individuelle.
Actuellement, c'est une question de conscience. La santé, c'est une affaire personnelle d'abord. Ce n'est pas d'abord l'affaire de votre médecin, a dit. Malheureusement, nous ignorons notre santé jusqu'au jour où nous tombons malades, c'est alors qu'on en prend conscience.
Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Direction le Lualaba à présent pour parler de cette altercation entre forces de l'ordre et creuseurs artisanaux hier lundi à Kolwezi. Bilan, un blessé et deux véhicules incendiés. Les faits se sont déroulés précisément sur les sites dénommés Sulfur Katapula. À la base, les creuseurs artisanaux accusent une personne se réclamant être le conseiller du chef de l'État de ravir le site mini après avoir été dégarpé du site par des militaires. Le point avec Paul Amunanga.
Des hommes et des femmes qui exercent leurs activités au niveau du site minier dénommé Sulfur Katapula se sont soulevés aux premières heures de ce lundi, scandant des chansons. Ils ont barricadé la route nationale numéro 39, tronçon Lwilu Iseka à Kolwezi, indiquent des témoins, et ils ont brûlé des pneus. Au cours de la manifestation, un creuseur artisanal a été blessé par balle. Une voiture de marque RAV4 et un camion de marque OO ont été incendiés. Les manifestants en colère accuse une personne qui s'identifie comme étant conseiller du chef de l'État d'avoir occupé les sites miniers qu'ils étaient en train d'exploiter. Un manifestant s'exprime.
Nous avons le regret de voir un conseiller, soi-disant conseiller du chef de l'État, répondant au nom de M. Kao. M. Kao Mandungu est venu nous ravir notre concession. La communauté Iseka. Aujourd'hui, Kao nous amène tout un arsenal de la garde républicaine. Aujourd'hui, la garde républicaine garde les sites miniers de M. Kao. Nous sommes en train de travailler pour gagner du pain.
Nous ne sommes pas parvenus à atteindre la personne incriminée ni les autorités du loi là-bas. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Trois semaines après le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, dont les répercussions secouent les marchés énergétiques mondiaux, la raffinerie Dangote, fleuron industriel nigérian, a annoncé le lancement de ses exportations de carburant vers plusieurs pays africains. Cette décision intervient dans un contexte de tensions accrues sur les circuits d'approvisionnement, notamment vers le détroit stratégique d'Hormuz, perturbé par le conflit. Dans un communiqué publié dimanche que rapporte africanews.fr, le groupe fondé par l'homme d'affaires Aliko Dangote a indiqué avoir écoulé 12 cargaisons représentant un total de 456 000 tonnes de produits pétroliers. Ces livraisons ont été destinées à plusieurs économies africaines, dont la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Tanzanie, le Ghana et le Togo.
L'invité.
Le tribunal pénal économique et financier chargé de réprimer les infractions économiques et financières en République démocratique du Congo a été créé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, par ordonnance loi du 14 mars 2026. Dans la même optique, il s'est tenu à Kinshasa le vendredi 20 mars, une journée de plaidoyer sur l'appropriation de l'application Tofungo Lamiso, en français, ouvrons les yeux. Cette application numérique permet à tout citoyen congolais de dénoncer des faits de corruption de manière anonyme ou non. Au vu de toutes ces initiatives, les participants à l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi ont évalué la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. On les écoute au micro de Guy Maté.
Madame Elodie Tamuzinda, vous êtes coordonnatrice des dignités humaines ASBEL. Vous êtes experte électorale, experte en résolution des conflits. En plus de votre application Tofungo Lamiso, nous avons également rappelé que le chef de l'État vient de créer un tribunal pénal, économique et financier pour notamment lutter contre la corruption. Au vu de toutes ces initiatives, comment vous évaluez la lutte contre la corruption en RDC, Madame Elodie Tamuzinda?
Déjà, nous devons féliciter le gouvernement à travers cette initiative de mise en place du tribunal économique financier, puisque le cadre légal était aussi pauvre en rapport avec la lutte contre la corruption en RDC. Et du moment où nous voyons que de plus en plus, nous y allons dans le sens d'avoir des lois, d'avoir des décrets qui doivent accompagner cette lutte, pour nous, c'est un ouf de soulagement. En présence, nous avons l'honorable vice-président de l'APNAC qui a initié même ces projets de loi sur la protection des lanceurs d'alerte, puisque ça aussi pour nous, c'est vraiment une épine dorsale. Nous ne savons pas comment y aller sans être inquiétés dans un environnement où lorsque vous dites la vérité ou vous dénoncez d'une manière objective, mais si ça gêne, par exemple, une autorité, ça risque d'avoir des représailles. Et c'est là où nous avons dit non. Du moment où nous avons l'APNAC qui a à son sein, c'est lui qui a initié même cette loi, en tout cas nous devons vraiment nous y accrocher. Et c'est pour dire que nous félicitons, mais il y a des inquiétudes. Des inquiétudes, ce sont ces mesures d'application. Est-ce que ce sont les lois qui nous manquent? Non, nous avons besoin du cadre légal d'un côté, mais le cadre légal n'est pas une fin en soi. Il doit y avoir nécessairement des mesures d'application.
Merci. Prosper Tunda Kasongo, vous êtes député national élu de Kibombo dans la province du Maniema. Vous êtes président national du Parti des démocrates humanistes PDH en sigle, parti politique, membre de l'Union sacrée de la Nation. Vous êtes aussi membre du comité exécutif du réseau des parlementaires africains contre la corruption APNAC en sigle, chargé des médias. Il y a des structures, n'est-ce pas, qui ont été mises en place. Hein. Est-ce que vous pensez que la lutte s'est faite comme il se doit? Ou alors, il y a des points qu'il faut améliorer, qu'il faut corriger?
Il y en a beaucoup qu'il faut corriger parce qu'il faut d'abord doter la République d'un cadre juridique. Donc, il faudrait qu'il y ait une loi anticorruption. Et ça, coup de chapeau au nouveau ministre d'État à la justice qui est déjà à l'œuvre. Moi-même, je suis allé à Bibwa pour participer à l'enrichissement de ce projet de loi anticorruption. Et au courant de cette session de mars, je crois que le projet de loi sera déposé à l'Assemblée nationale et nous allons tout faire pour que ce soit parmi les lois prioritaires à adopter avant la fin de cette session. Donc il faudrait, à part le cadre juridique, il faut que le pays soit doté aussi d'une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Et puis, qu'il y ait aussi une loi qui est très importante, dont je suis porteur, c'est la loi portant protection des lanceurs d'alerte.
Merci Ernest Mpararo, vous êtes secrétaire exécutif de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption, l'ICOCO en sigle. Vous êtes également le point focal en RDC de l'ONG Transparency International. Pouvez-vous nous parler des conséquences de la corruption en RDC en termes de données chiffrées?
Par exemple, vous aviez suivi la politique de la gratuité de la maternité. Ça, c'est un exemple simple. Le dernier rapport sur l'égalité des sexes en République démocratique du Congo, publié par le ministère du plan, il dit que chaque jour, il y a 29 femmes qui meurent lors de l'accouchement. Pourquoi ces femmes meurent? C'est parce qu'effectivement, vous vous souvenez que le président a lancé la politique ou le programme de gratuité de la maternité. Or, lorsque vous passez, vous allez dans un hôpital, vous constatez que les mamans qui vont là-bas pour accoucher, ils payent tout, malgré le fait que le gouvernement a mis des moyens, a mis des paquets pour appuyer ces hôpitaux afin que nos mamans accouchent dans de bonnes conditions. Ça, c'est un seul exemple pour vous montrer les degrés de cette corruption où il y a 29 femmes qui meurent chaque jour. Maintenant, prenez mensuellement c'est combien, annuellement c'est combien.
Vous pouvez retrouver ce numéro de dialogue entre Congolais en intégralité sur www.radiookapi.net et aussi sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi. Merci de l'attention accordée à ce journal préparé par Lévin Bunga, mise en onde par Alain Groy. Bonne journée.